penche la guitare, penche la guitare, penche la guitare.
1, 2,
penche la guitare.
3, 4.
Je dois vous dire que tout ça fait un peu bricoler.
Ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'esthétique, mais la science créatrice et la connaissance technologique.
Les empreintes musicales. Franck Amouroux.
Bonjour Pia Moustaki.
Bonjour Franck.
C'est la dernière partie de notre émission Portrait, Biographie, Audio, Les empreintes musicales, avec vous Pia Moustaki. Nous avons abordé l'ensemble de votre vie, déjà, depuis votre naissance, fille de Georges Moustaki et de Yannick Varek. Vous êtes née dans un environnement créatif et artistique à Paris. Votre mère avait des origines bretonnes de la région de Roscoff, dans le Finistère Nord, le pays des Johnnies. Vous avez une fille qui se prénomme Gaëlane. Vous avez refait votre vie avec Patrick Ozouf, marié maintenant, et vous résidez donc en région parisienne lorsque débute ce quatrième épisode. Avec Patrick, votre nouvel amoureux, vos vies respectives ont sans doute besoin de second souffle à cette période-là. Vous décidez de quitter Paris. Vous êtes parisienne malgré tout, hein. Toute votre enfance et votre vie adulte, vous la passez à Paris, dans les meilleurs quartiers artistiques, entourée de gens célèbres plus les uns que les autres. Vous vous y plaisez, mais vous ressentez comme un appel du large. Nous sommes à la fin des années 90. Quitter Paris, oui, mais pour quelle destination? Le petit village de l'Hérault où résidait encore votre mère ne vous séduisait donc pas?
Non, je sais pas pourquoi, mais j'ai jamais pensé vivre là-bas. Y aller un mois ou deux l'été pour faire la cuisine pour mes amis, retaper un petit peu les murets, entretenir la maison, oui. Mais c'était vraiment le choix de ma mère d'aller là-bas. Et moi, je me serais pas vue vivre toute l'année là-bas. Non, il n'y avait pas... Dans le sud, il y a quelque chose, une nonchalance qui ne me ressemble pas. C'est peut-être mon côté bretonne qui ressort, où moi, j'ai besoin, même les éléments, même quand il ne fait pas beau en Bretagne, j'aime la Bretagne. Et puis les gens sont, je trouve... Je vais me faire mal voir par les gens du sud, mais plus motivé, plus courageux pour faire des choses. Par exemple, on fait un concert, et ben, s'il pleut dans le sud, on n'a personne. Et si on fait un concert en Bretagne, ben, qu'il pleuve, qu'il vente, ils viennent. Ils s'en foutent de la pluie, ils bravent les éléments. Ma mère disait toujours, on n'est pas en sucre.
L'élément déclencheur qui vous fait venir ici en Bretagne, parce que maintenant, donc, vous résidez ici à Saint-Servant.
À Saint-Servant-sur-Mer, près quartier de Saint-Malo. Et aussi à Paris, je navigue entre les deux.
L'élément déclencheur, c'est une invitation hein, chez des amis Kirsten et Jackie,
oui,
à la Guimorée.
À la Guimorée, ils avaient un gîte voilà, à côté de Saint-Coulon, à la Guimorée.
Tout près de Saint-Malo.
Tout près de Saint-Malo. Et donc, des amis de Paris m'avaient recommandé d'aller les voir. Et je suis allée là-bas et j'ai été scotchée devant la beauté du site parce que toute la... La côte est préservée des constructions, il n'y a pas de béton, c'est vraiment très très sauvage. Et je me suis dit, à 3 heures de Paris, je n'en revenais pas que ce soit si beau et si préservé surtout. La côte d'Émeraude, magnifique.
Dans votre biographie, ces mots-là sont cités. C'est ici que je vais me reconstruire.
Oui, parce que c'est vrai que ben, j'ai eu des hauts et des bas après d'avoir élevé ma fille toute seule, etc. Après, avec Roger K aussi, on s'est séparés, puis après, il est décédé. Donc, c'est tout ça. C'est à un moment, j'ai eu envie de vivre quelque chose de plus éclatant, près de la mer, l'iode, les huîtres, la Bretagne.
C'était le bon moment. C'était dans vos vies, hein, tous les deux. Hein.
Ben, c'était le bon moment pour Patrick aussi, parce que quand je lui ai dit « qu'est-ce que t'en penses, on quitterait Paris ben, ?» Je l'ai invité d'abord à la Guimorée un week-end. Et là, il a vu que waouh, c'est la baie du Mont-Saint-Michel, elle est pas loin. Il était déjà venu à Saint-Malo. D'accord. Et dans la région, mais c'était la première fois dans ce lieu-là, avec ces amis-là, où on était à la bonne franquette avec le feu de bois, le petit apéro sympa, et puis il y avait tous les enfants qui dînaient. Alors on pouvait aller même avec des femmes seules venaient avec leurs gosses au lieu qu'ils soient dans un hôtel. Là, tous les mômes, ça faisait comme une colonie, ils mangeaient ensemble. Après, ils allaient faire des activités, les parents mangeaient. Enfin, c'était vraiment très convivial. Et puis, la beauté du site. Et c'est Jackie et Kirsten qui nous ont dit, on leur a dit, mais nous, on aimerait bien peut-être quitter Paris. Alors, ils disaient, oh, il y en a plein qui le disent et jamais ils le font. Ben, nous, on l'a fait. Et puis ils nous ont conseillé d'aller à Cancale dans un premier temps.
Fin 97. Vous décidez de prendre une location à Cancale, puis de vendre le pavillon de Patrick à Viry-Châtillon.
Voilà.
Et donc, alors, c'est la vente de cette maison-là qui vous a permis d'investir dans cette affaire.
Voilà.
Donc, que vous allez un peu nous raconter maintenant. C'est l'aventure du café-concert à Saint-Servant, le Marie-Morgan, c'est ça ?
Voilà, exactement. Marie-Morgan, on nous en parle encore quand on croise des habitués ou des amis qui ont connu ce lieu, parce que des fois, c'est des habitués qui sont devenus des amis aussi. Ça a duré 7 ans, donc en 7 ans, on a eu le temps vraiment de connaître les gens du coin. Patrick mettait des vinyles, morceau par morceau, parfois, suivant la clientèle. L'après-midi, on mettait un peu cool pour les femmes qui venaient boire un thé, avec une pâtisserie. Voilà. Puis après, le soir, il y avait des copains qui étaient un peu plus rock'n'roll. Ben là, on mettait...
Une playlist un peu plus adaptée.
Voilà, on adaptait vraiment la musique. C'était vraiment Patrick qui faisait ça super bien. Et on l'avait décoré après, avec tout ce qu'on avait à nous, avec un peu les moyens du bord. On ne voulait pas faire de travaux tout de suite.
L'idée,
finalement,
c'était
on a donné une âme vraiment à...
C'est un cabaret.
À des moments, on nous a dit c'est comme un tout petit cabaret. Voilà, on a mis un piano. Et puis, il y a des guitaristes qui sont venus. Il y a un pianiste. Au début, y avait un flipper, il y avait marqué snack à toute heure, enfin c'était un bar un peu genre PMU un peu de quartier, et on lui a donné une âme un peu artistique. Voilà.
Que dire d'une ville connue de tous les ports du monde, qui navigue tranquille aux tempêtes. Je te le dirai en chanson, un soir dans la lumière, murmure d'accordéon, caresse passagère. Tu verras l'horizon et sa brume légère, m'assurer des raisons, sœur, comme nous sommes frères. Un nom qui fait rêver, un nom qui fait vibrer, d'autres noms familiers, Saint-Malo. L'intense cité. Il y aura la passion, l'étincelle mystère. Et même des bonbons et de l'art éphémère, d'éternelles raisons de nous lier dès hier, délier les saisons, décliner les hivers. Qu'écrire sur ses habitants, offrir à ses habitués, entre les plages de Saint-Servant, d'Intramuros, de Paramé, il y aura la passion, l'étincelle mystère, et même des bonbons et de l'art éphémère, d'éternelles raisons de nous lier dès hier, délier les saisons, décliner les hivers. Un nom qui fait rêver, un nom qui fait vibrer.
À Moustaki, Saint-Malo, l'intense cité. Alors, on est au début de l'année 2000. Votre maman tombe malade et perd un peu la tête. Vous parvenez à la convaincre de vendre son village un peu retiré dans l'Hérault, à l'Herbousse, et de vous rejoindre près de chez vous à Saint-Servant. Vous intervenez souvent chez elle. C'est vous-même qui lui trouvez cette petite maison là où on est aussi aujourd'hui, quoi. C'est ça.
Oui, c'est ça.
Je vous remercie de m'accueillir. D'ailleurs.
Bah, c'est gentil. C'est mon pianiste qui savait que je cherchais une petite maisonnette de plein pied pour ma mère parce qu'elle avait mal au genou, donc il fallait pas qu'elle ait d'étage surtout. Puis elle était plus âgée, alors donc il fallait que ça soit confortable. Et donc il était dans une salle d'attente de médecin ou de je sais plus. Et puis il me dit oh j'ai vu un truc, tiens je te donne en passant comme ça. Et puis on est venu voir. Et puis j'ai dit à ma mère ça te plaît. Elle m'a dit bah écoute c'est pas mal, si ça te plaît aussi hop ça s'est fait très vite parce que moi j'avais pas le temps, j'avais le bar aussi donc je m'occupais d'elle, je m'occupais. Donc ça s'est fait très très vite. J'ai demandé à un copain de mettre un coup de blanc et hop voilà. Mais il y avait pas encore la petite véranda qu'on a la chance d'avoir améliorée depuis. La cheminée c'était une cheminée, c'était pas le joli poêle qu'on D'accord. a. On l'a améliorée d'année en année.
Les empreintes musicales.
En juillet 2001, Georges Moustaki joue au Festival des Vieilles Charrues. Quel souvenir gardez-vous de ce moment-là, de voir votre père sur scène devant un public peut-être plus jeune, de plusieurs dizaines de milliers de spectateurs, en plein centre-Bretagne.
Moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est que mon père, avant ça, moi j'avais été sélectionnée en tant que chanteuse pour le tremplin des jeunes charrues.
D'accord, et ici sur le territoire
oui,
de Saint-Malo.
Oui, à l'Omnibus, à la grande salle de 1000 places de l'Omnibus de Saint-Malo. Et donc j'en avais parlé au téléphone, j'avais dit, tu sais, je suis contente, j'étais sélectionnée. Bon, je suis arrivée deuxième, donc j'ai pas été à Carré, mais j'étais à Carré dans le public. Mais,
cette même année-là
oui, c'était cette année-là. Et donc je lui ai dit au téléphone, tu te rends compte, je suis sélectionnée au tremplin des jeunes charrues. Bon, je suis arrivée deuxième, mais je suis quand même super contente. Et il m'a dit, mais c'est quoi les jeunes charrues, les vieilles charrues? Il ne savait même pas que ça existait, il ne connaissait pas. Alors il s'est dit, mais c'est un truc de, je sais pas, de bouseux, ou je ne sais pas ce qu'il s'est dit. Et puis après, bah, il a dû remplacer Charlebois, en fait.
Robert Charlebois, ouais.
Voilà, Robert Charlebois. Et du coup, après, je lui ai dit, bah, tu ne savais pas ce que c'était Carré? Ben bah, voilà, bienvenue à Carré. Et quelque part, je prenais une petite revanche, parce qu'il n'avait pas trop tilté que c'était quand même important en Bretagne. Et puis je crois que c'est le premier festival de France et le deuxième d'Europe, il me semble. Et il ne le connaissait pas, parce que lui, il était plus dans l'international. Donc, les vieilles charrues, pour lui, c'était bon, d'où le nom. Mais c'est vrai qu'il voulait concurrencer les vieux gréements. C'est très amusant, les vieilles charrues. Mmh. Et moi, j'adore ce festival. Et puis, connais son histoire. Il a commencé tout petit, et puis il s'est développé. C'est une belle histoire.
Mmh. Et donc, votre papa, sur scène?
Eh bien, c'était... Bah, lui, il était à l'aise partout, donc...
D'accord.
C'était...
Même devant ce
oui,
ce public.
Bien sûr. Mais il avait l'habitude des grandes salles aussi à l'étranger. Il faisait des tournées internationales. De grandes salles et de festivals aussi, donc ça, c'est pas ça qui l'impressionnait, mais moi, ce qui m'amusait, c'était la petite anecdote que je viens de vous confier. Mmh.
En décembre 2006, votre père vous invite à lire l'un de ses textes à l'Institut du Monde Arabe. Dans votre livre, Pierre Moustaki, fille de Métèque, on réalise que vous vivez un peu mal cette période avec votre père. Il s'est un peu éloigné de vous. Vous réalisez qu'il ne vous a pas beaucoup accompagné dans votre propre carrière, dans votre démarche artistique à vous. Vous dites même qu'il vous mettait des bâtons dans les roues que vous n'aviez même pas. Quelles attentes aviez-vous de lui? Sur quelle partie de votre vie, de votre création artistique, auriez-vous aimé qu'il vous accompagne davantage?
C'est-à-dire que oui, il m'a demandé, parce qu'en fait c'était moi qui lui ai proposé cette soirée, une amie à moi participait à cette soirée. Et ils m'ont dit que le directeur de l'Institut du Monde Arabe, enfin de la partie artistique, hein, souhaitait pour cette soirée avoir mon père. Et donc je l'ai appelé, je lui ai dit, tiens, est-ce que ça te dirait de faire cette soirée avec plusieurs personnes, artistes, etc. Il m'a dit, pourquoi pas. Puis de temps en temps, quand je l'appelais, je lui ai dit, au fait, t'en es où de ce projet à l'Institut du Monde Arabe? Et il me disait, mais pourquoi ça t'intéresse cette soirée-là? Enfin, je dis, c'est un petit peu moi qui t'ai branché sur cette soirée, sur ce projet.
Il ne te rappelait plus.
Alors, moi, je lui ai redit. Et puis après, la date se rapprochait. Et puis, je lui ai dit, je suis contente. Finalement, ça se fait. Je suis ravie. C'est très beau, l'Institut du Monde Arabe. C'est tout près de chez lui. En plus, l'île Saint-Louis, c'était à deux pas. Au pied levé, il me dit, tiens, tu pourrais lire un de mes textes, Le Mur, d'un petit recueil de textes, des contes qu'il avait écrits. Et il me donne le choix entre deux. Et je choisis Le Mur, qui est un très beau texte. Et là, la veille, on va déjeuner chez lui, et il me dit, bon, alors demain, on va voir tes talents de comédienne, mais sur un ton un peu pas très bienveillant, quoi. Il était un peu, on va te mettre au défi de... Il aurait pu vraiment me mettre la pression, sauf que moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, ou la dernière fois, je ne sais plus, je suis une bosseuse, et qu'avec Patrick, j'ai répété le texte devant la caméra, je l'ai revu, je l'ai retravaillé, et que j'ai pas du tout fait de faute, de syntaxe, de... j'ai très bien lu le texte, et même après, il a mis 2 semaines à me faire des compliments, parce qu'il était très avare en compliments, mais il m'a dit, tout le monde t'a trouvé super, et moi aussi. Mais non, c'est vrai qu'il ne m'a pas favorisé dans mes aspirations artistiques. Il disait que j'avais un beau filet de voix, mais que ça ne suffisait pas. Et quand je lui disais que j'avais envie de faire de la chanson, il ne m'encourageait pas. Il me disait qu'il ne voyait pas la vocation, que c'était un milieu compliqué. Il me conseillait plutôt de faire un boulot normal, entre guillemets, de
il vous encourageait pas du tout à ça,
par exemple. Non, mais à la fin de sa vie, son ego s'étant un peu apaisé, parce que je pense qu'il avait une rivalité artistique aussi, pas seulement avec moi d'ailleurs. Et donc, il m'a avoué qu'il aimait beaucoup mes textes. Et là, il m'a demandé d'écrire un texte sur une de ses musiques, d'ailleurs, qui s'appelle « Sur un air de ressemblance ». Mmh. Et il a eu le temps de l'écouter avant de nous quitter. Et je suis très contente de ça. Et c'est un de mes projets, d'ailleurs, de faire exister cette chanson et d'autres par la suite.
Pendant que je dormais, pendant que je rêvais, les aiguilles ont tourné. Il est trop tard, mon enfance est si loin. Il est déjà demain. Passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps. Pendant que je t'aimais, pendant que je t'avais, l'amour s'en est allé. Il est trop tard, tu étais si jolie. Je suis seul dans mon lit. Passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps. Pendant que je chantais ma chère liberté, d'autres l'ont enchaîné. Il est trop tard, certains se sont battus. Moi je n'ai jamais su. Passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps. Pourtant je vis toujours, pourtant je fais l'amour. M'arrive même de chanter sur ma guitare pour l'enfant que j'étais. Pour l'enfant.
Georges Moustaki, il est trop tard. En octobre 2012, vous voyez votre père pour la dernière fois. Il ne souhaitera plus recevoir de visites vers la fin de sa vie. Hein. C'est un peu compliqué pour tout le monde.
Il était très diminué, donc il y avait seulement sa secrétaire particulière et sa gouvernante qui s'occupait vraiment de le soigner et les infirmières. Mais moi, il me disait, avec élégance, tu viendras quand j'irai mieux, mais il savait qu'il n'irait pas mieux.
Et donc le 23 mai 2013, Georges Moustaki décède. Ses obsèques ne se déroulent pas non plus vraiment comme vous l'auriez souhaité, vous.
C'est-à-dire que moi, je ne souhaitais rien de spécial. Lui, il avait déjà une assistante personnelle, et aussi Marie-Ange Mirande, dont je parlais précédemment, qui était sa manager, mais qui était très présente en tant qu'amie. Et donc, son assistante personnelle, Isabelle, est de confession juive, et donc elle lui avait dit, ça serait bien quand même, tu es juive, que tu aies une prière avec le rabbin, etc. Elle l'avait en fait persuadé, et il avait dit, oh, une petite prière, ça ne peut pas faire de mal. Mais lui était profondément athée. Et c'est ça qui m'a dérangée, c'est que le fait qu'elle ait un petit peu orienté les choses de cette façon, le rabbin, il n'a pas fait qu'une prière, il est resté les 3/4 du temps. Et ça a donné une connotation très religieuse à cet enterrement. Et même Brigitte Fontaine, qui est aussi athée et qui était à l'enterrement, m'a dit « Mais enfin, ton père était athée, pourquoi ce cérémonial ?» C'était pas une petite prière comme mon père l'avait souhaité. Donc là, moi, j'aurais préféré qu'il me donne carte blanche à moi. J'aurais mieux respecté son souhait.
Brigitte Fontaine, Art Esqui et l'Art Ensemble de Chicago, comme à la radio.
des mots, 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 des mots. Des mots, des mots, des mots, des mots, des mots, des mots. Tout juste un peu de bruit. Juste un peu de bruit. Tout juste un peu de bruit.
Sans obligatoirement évoquer le côté matériel et financier, quel héritage vous laisse votre père, Georges Moustaki? C'est bien vous quand même qui gérez ses droits d'auteur actuellement?
Oui, c'est moi qui gère tout en fait. Donc il m'a légué beaucoup de travail et beaucoup de belles chansons. Mais ça, c'est pour tout le monde. Mais pour moi, c'est beaucoup de travail. C'est pour ça que j'ai créé un lieu de mémoire pour lui, avec toujours Patrick à mes côtés qui m'accompagne dans tous mes projets, parce que sinon je ne serais pas capable de faire la moitié de tout ce que je fais. Et donc il m'avait dit un jour, tu sais, on a vendu tous les instruments de Barbara aux enchères, je souhaiterais vraiment que ça ne soit pas le cas pour moi. Et là j'ai vraiment entendu son souhait et je lui ai dit, je te le promets, ça ne sera pas le cas. À un moment il m'a dit, j'aimerais bien faire une fondation. Mais alors fondation, le mot fondation, mais c'était en plus sur le tard de sa vie, donc déjà il n'avait plus la force de faire ça. Je m'étais dit, peut-être, on verra plus tard, mais moi je m'étais beaucoup occupée de ma fille, je m'étais beaucoup occupée, j'avais dit d'ailleurs, de ma mère, et j'avais envie de m'occuper un peu de moi, mais maintenant qu'il nous a quittés, bien sûr que je m'occupe de tout ce qu'il faut faire pour lui, les hommages qu'on me demande de faire. Il y a une place Georges Moustaki maintenant, tout en bas de la rue Mouffetard à Paris 5e. Mon père avait envie d'une rue à son nom. Le Conseil de Paris l'avait voté en 2013, à sa mort. Mais après, avec mon assistante et collaboratrice Santina, on a vraiment envoyé des mails, téléphoné pour que ça se concrétise, parce qu'il faut persévérer pour que les choses vraiment se fassent. Et du coup, je remercie vraiment Santina d'être pugnace et persévérante pour que ça ait eu lieu. Cette place porte désormais le nom de Georges Moustaki. Il y a eu Anne Hidalgo, Florence Berthoud, donc qui ont fait des discours. Moi aussi, j'ai fait un discours que j'ai transcrit dans mon livre, d'ailleurs. Et je suis très heureuse pour mon père. Et en plus, il y avait ces deux sœurs qui étaient encore là, parce qu'il y en a une qui nous a quittés et qui était là pour cet événement, que leur frère ait une place à son nom à Paris, sa ville d'adoption. C'était important.
Les empreintes musicales.
En 2019, donc, vous éditez un peu l'objet de notre rencontre, depuis ces quatre épisodes d'émission de Radio Ensemble, Pierre Moustaki. Donc, aux éditions Plomb, votre propre biographie avec le soutien de Colette Olivier Chantrel, fille de Métèque. Ce mot-là, Métèque, est passé d'une injure, effectivement, à un mot noble. Un mot qui semble bien vous représenter, vous, cet héritage un peu entre saltimbanque et puis aventurière, un peu rock'n'roll.
Oui, et puis métissée aussi, bretonne-grecque, voilà, et puis oui, voyageuse et qui aime la vie aussi. Et je voudrais dire un petit mot sur Colette Olivier Chantrel, parce que c'est vrai que c'est notre collaboration qui a pu donner naissance à ce livre, parce qu'elle est auteure et peintre de grand talent. Et que voilà, c'est une malouine et j'ai beaucoup travaillé avec elle sur ce projet.
Comment le public vous accueille? Comment on reçoit ce livre?
Ce livre, je suis très étonnée parce que déjà ma famille m'a vraiment réconfortée parce que j'ai hésité à le faire. C'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Et j'ai fait lire les manuscrits à mes tantes pour qu'elles valident aussi et qu'elles apportent leur point de vue, la justesse. Je voulais être au plus près de la vérité pour les... surtout les choses anciennes. Et donc, bah, j'ai des très très bons retours. Je suis très étonnée même, des fois, des gens comme François Morel, qui est un grand ami de mon père et que moi j'adore. Et il m'a envoyé un texto, il m'a dit « je l'ai lu d'une traite, j'étais emballée par ton livre ». Et c'est vrai que des retours comme ça, je me dis « waouh, j'ai bien fait de l'écrire ».
Dans cette nouvelle décennie, qu'est-ce qui va vous animer alors 2020? Quels sont les rêves que vous aimeriez voir enfin se réaliser? Dans quel projet allez-vous vous engager, Pia Moustaki?
Mais écoutez, justement, faire voyager ce livre déjà, prendre mon livre sous le bras et puis le faire voyager, comme j'aime les voyages, visiter la Grèce parce que je ne suis jamais allée en Grèce. Et donc c'est très important pour moi d'y aller, mais un peu longuement, je ne vais pas y aller 2 semaines, je vais y aller au moins 1 mois pour faire des signatures. On va faire sûrement un spectacle autour un peu des chansons de mon père avec les musiciens de mon père qui sont devenus des grands amis aussi. Et puis j'ai envie d'enregistrer quelques chansons qui sont un petit peu, qui n'ont pas encore vraiment vécu, comme Sur un air de ressemblance, dont mon père donc a composé la musique, dont j'ai écrit le texte, et puis d'autres chansons qui ne demandent qu'à éclore, qui et à vivre. Donc voilà, j'ai un projet d'album, j'ai un projet de conte pour enfants aussi. J'aimerais beaucoup travailler dans le monde de l'enfance, parce que j'ai travaillé aussi à la télévision pour les castings enfants. Et je suis très proche des enfants, et je suis peut-être même moi une petite enfant grande. Et voilà, donc faire toujours des... Puis ça dépend des rencontres, parce qu'une rencontre propose quelque chose qui débouche sur autre chose. Ça veut dire être ouverte aux propositions des autres aussi, comme avec vous pour cette émission, Franck.
Merci. Merci d'avoir passé ce moment-là, de m'avoir accueilli ici.
Merci à vous.
Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude. Elle ne me quitte pas d'un pas, fidèle comme une ombre. Elle m'a suivi çà et là, aux quatre coins du monde. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Quand elle est au creux de mon lit, elle prend toute la place, et nous passons de longues nuits tous les deux face à face. Je ne sais vraiment pas jusqu'où ira cette complice. Faudra-t-il que j'y prenne goût ou que je réagisse? Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Par elle, j'ai autant appris.
Merci à Pia Moustaki, notre invitée du jour, pour cette entrevue. Merci à Patrick Ozouf et à Santina Calderaro pour l'organisation. On se donne rendez-vous pour ce même créneau horaire la semaine prochaine. Les empreintes musicales, l'émission, c'est fini pour aujourd'hui. Bises, bisettes, bisous. Ciao, Kenavo. À bientôt.
Courtisane, elle sera à mon dernier jour. Dernière compagne, non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Non, je ne suis jamais seul avec
Georges Moustaki, ma solitude.
Ma solitude.